Et en effet, Thierry, nous sommes tout oui, car nous souhaitons, dans notre émission des souris et des lettres, faire partager ton enthousiasme en faveur de l'enseignement des langues et cultures de l'Antiquité, en collège comme en lycée. Et manifestement, autour de ce micro, tes collègues sont animés du même enthousiasme, puisque tu t'es associé à Jeanne Dreveton, Marie Pacchioni et Hugo Jambu pour inaugurer une nouvelle rubrique intitulée « La table ronde des LCA ». Il ne me reste donc qu'à vous laisser la parole, à tous les quatre, en vous posant sans embâge et sans langue de bois la question centrale de notre émission. Table, tableau, tablette, quels bénéfices peut-on attendre de l'usage des matériels mobiles en cours de langues anciennes ?
Oui Serge, il y a encore fort peu de temps, faire usage des TIS en langues et cultures de l'Antiquité pouvait prendre, soyons caricaturales, deux formes. L'usage du PC dans une salle dédiée, avec en particulier des contraintes de disponibilité, d'aménagement, de nombre de postes, et d'un autre côté, celui en classe, du vidéoprojecteur, puis maintenant des TBI, dans notre salle de cours. Aujourd'hui, avec la démocratisation des appareils mobiles, ces choses sont en train de changer. Mais avant que nous continuions cet échange, qu'est-ce qu'un appareil mobile ?
Alors, c'est évidemment les smartphones ou encore les tablettes que nos élèves ont l'habitude d'utiliser. Mais il s'agit aussi, par exemple, des kits de baladodiffusion, des mallettes de baladodiffusion qui permettent d'enregistrer une trentaine d'élèves et qui coûtent pour l'établissement entre 1 et 2 000 euros.
Et en quoi l'arrivée de ces nouveaux outils, de ces nouvelles technologies permet de changer complètement la donne, Marie ?
D'abord, ce sont des matériels qui sont connus des élèves et qui appartiennent à leur univers. Ils en maîtrisent d'emblée l'usage pour la plupart. Et puis, ce sont des matériels portables qui sont facilement déplaçables. Et le plus important, c'est que ce sont des matériels polyvalents qui sont susceptibles de recevoir un nombre infini d'applications. À titre de comparaison, un baladeur MP3 ne permettait que d'enregistrer ou d'écouter du son. Un appareil photo, de prendre des photos, un caméscope, de faire des vidéos.
Alors Marie, avant de commencer à détailler les usages possibles de ces outils en cours de langues et cultures de l'Antiquité, répondons à une question que j'entends déjà derrière les écrans et que doivent se poser beaucoup de ceux qui nous écoutent. La question de l'usage de ces appareils mobiles dans les établissements, qui pose deux problèmes. D'abord, des problèmes légaux. A-t-on la possibilité dans tous les établissements de faire utiliser aux élèves ces appareils mobiles ? Ont-ils le droit de l'utiliser en cours ? Ont-ils le droit d'utiliser leur matériel mobile en cours ? Dans tous les règlements intérieurs, ça n'est pas possible. Et puis, d'un autre côté, des problèmes techniques, pour l'instant, avec la difficulté à installer des bornes Wi-Fi dans les collèges, les problèmes de droit que cela pose. Je pense que pour pallier à cette question, on pourrait tout de suite mettre en avant le fait que qui dit appareil mobile, qui dit appareil connecté, ne dit pas forcément appareil en mode connexion. On peut utiliser ces smartphones, ces tablettes aussi, sans la connexion. Et on va voir donc à travers cet échange qu'il y a d'autres usages que uniquement des usages connectés. Penser smartphone, penser tablette, ne doit pas conduire à ne voir que des scénarios dans lesquels l'appareil mobile est en connexion, par la 4G, par la Wi-Fi, etc. Quelle forme peut donc prendre l'usage d'un appareil mobile en cours, à la fois usage connecté et usage avec la connexion Internet, Marie ?
Alors, effectivement, on peut utiliser les outils mobiles d'abord pour individualiser les parcours, les différencier et donner accès à des ressources différentes en fonction des besoins des élèves. Je pense par exemple au travail de traduction en langues anciennes. L'accès au texte est facilité par le numérique puisque celui-ci peut permettre de s'adapter aux compétences des élèves. On peut par exemple présenter un texte nu ou avec une traduction. Avec un jeu de couleurs, on peut aussi mettre en avant par exemple la structure grammaticale des phrases. Il est possible également de proposer, pourquoi pas, une traduction juxtalinéaire à compléter, ou bien un puzzle à reconstituer. Nous pouvons présenter le texte avec du lexique, avec des indices étymologiques, justement pour favoriser l'entrée dans la langue des élèves. Le site Elios, par exemple, propose toute une variété d'exercices possibles sur un même texte. Et cela permet vraiment aux élèves de travailler en autonomie et à leur rythme. Voilà pour ce qui est de l'exercice de traduction. On peut aussi penser à l'apprentissage de la lecture en grec, en seconde ou pour les débutants, en troisième. Le numérique permet aussi de pallier les différences entre les élèves. Ceux, par exemple, qui ont fait une initiation en grec au troisième iront plus vite que ceux qui sont de réels grands débutants. Et justement, la proposition d'exercices variés, sur Elios toujours, permet aux élèves d'avoir une réponse en plus immédiate à leurs interrogations.
Toujours pour diversifier, Marie, nous avons parlé tout à l'heure de la différenciation pédagogique, nous avons parlé aussi du fait que les élèves d'aujourd'hui sont assez habitués aux tutoriels vidéo, et je pense qu'en latin, effectivement, et en grec, il y a des manières d'utiliser ces ressources en ligne, ces tutoriels vidéo, ces dispositifs d'étayage particuliers.
Oui, en fait, Thierry, concernant ces ressources, les collègues qui se lancent dans les expérimentations de classes inversées ont pu produire des capsules animées. L'accessibilité, pardon, se fait souvent via YouTube, hein, que nous connaissons tous. La durée est brève, quelques minutes. La présentation de ces capsules est souvent efficace. Ils sont presque conçus, en fait, pour une consultation sur un appareil mobile, smartphone ou tablette, en cours, avec la connexion Wi-Fi, ou à la maison. Et d'ailleurs, le logiciel gratuit Powtoon permet de créer ces capsules animées. Donc les élèves peuvent consulter la capsule autant de fois que nécessaire. L'outil s'adapte donc bien au niveau de chacun, hein, et l'animation en plus vidéo rend ce travail très ludique, hein. C'est souvent fait sous forme de petits dessins animés, c'est très ludique.
Ce qui me semble intéressant aussi par rapport à ce que tu dis, c'est que ça évite en classe, pour nous professeurs, de répéter 10 fois la même chose, mais de renvoyer les élèves qui en auraient besoin à la même, au même tutoriel et à lui dire de le reconsulter, tandis que les élèves qui ont compris finalement peuvent directement passer à autre chose. J'ai eu l'occasion de le tester avec une petite vidéo que j'ai fait moi grâce au logiciel Moovly, qui permet aussi de faire des capsules vidéo et qui m'a servi moi à faire un cours rapide sur la formation du parfait en latin. Alors, des points positifs, des points négatifs, la conception de tels tutoriels peut prendre un peu de temps, ça demande un travail de réflexion préparatoire pour scénariser le petit film, mais en contrepartie, c'est une ressource qui est disponible une fois pour toutes, donc on sait qu'une fois qu'elle est créée, elle peut nous resservir d'année en année. Et puis, ne pas oublier aussi que tout n'est pas à faire, il y a des choses qui existent déjà en ligne, il en existera certainement de plus en plus, donc pensez aussi à la mutualisation. De tels dispositifs de différenciation permettent aussi d'accéder à des ressources selon le besoin de l'élève, et puis pourquoi pas aussi de manière plus discrète, par exemple en faisant des liens vers ces vidéos, vers ces outils sous forme de QR code, ce qui permet de différencier sans forcément que chacun sache ce que les autres ont comme dispositif d'étayage.
Oui, concernant justement l'évaluation et ces dispositifs d'étayage hors connexion, la tablette peut être une alternative aux évaluations écrites. Sa souplesse d'utilisation permet de varier les productions. Elles peuvent se présenter comme des compositions texte, image, fixe ou animé, schéma, plutôt que questionnaire sur texte, hein, traditionnel ou extrait de version que nous connaissons tous. Et donc, elle peut aussi se présenter comme des films ou des enregistrements sonores. De ce contact avec les tablettes, on peut quand même constater un glissement de l'évaluation traditionnelle vers le projet. Et du coup, ce projet s'adapte souvent aux différents niveaux des élèves.
Oui, ça fera notre lien un petit peu entre deux thèmes, entre le thème de la différenciation qui est facilité par les tablettes et puis celui du côté multimédia et de la démarche de projet, justement, parce que utiliser des tablettes, c'est mettre à disposition des élèves des outils multimédia qui doivent non seulement les aider à consulter des ressources de tout ordre, du texte, des sons, des vidéos, mais qui peuvent les aider aussi à en produire. Et cette caractéristique des tablettes va nous être particulièrement utile en collège, dans toutes les démarches de pays, avec la nouvelle réforme du collège. Mais je pense qu'il y a d'autres applications également.
Alors effectivement, en collège comme en lycée, par exemple, dans le cadre de la préparation de séjours éducatifs, on peut tout à fait utiliser des tablettes sans avoir besoin de connexion. Effectivement, ça peut permettre d'élaborer, par exemple, un carnet de bord plus riche. En amont, il est possible d'insérer des documents préparatoires aux visites, des plans, des cartes, des synthèses écrites, des travaux de recherche des élèves, des photographies, des reconstitutions de monuments. Et puis sur place, les élèves seront évidemment plus autonomes. Par exemple, on peut insérer dans les tablettes des questionnaires à compléter ou proposer des chasses au trésor avec des photographies à prendre in situ, par exemple. Et puis, évidemment, pour ce qui est du retour, on pourra ensuite proposer des comptes rendus variés qui peuvent prendre la forme de vidéos, de photographies, d'interviews, de sons, etc.
C'est effectivement des nouveaux types de travaux qu'on peut demander aux élèves. Et puis, on peut se servir des tablettes pour filmer des exposés, donc changer la manière de faire les exposés, plutôt qu'un retour en classe peut-être fastidieux parfois avec des classes où on a à présenter 10, 12 exposés à la suite et qui finalement n'intéressent pas tous les élèves et on perd un peu de temps. Faire présenter aux élèves les exposés en les faisant se filmer eux-mêmes et en nous transmettant les documents et après constituer une banque de ressources entre élèves avec laquelle ils vont par exemple sur un thème mythologique pouvoir regarder ce qu'ont fait les autres, ça paraît plus profitable que les méthodes anciennes, disons, de constituer ces exposés. Pareil, de la même façon, les prestations d'IDA, c'est un vrai travail de l'oral qu'on fait faire aux élèves quand on les filme, quand on leur permet de se filmer, et qu'on leur permet aussi de se voir, de s'auto-évaluer, de savoir ce qu'ils ont fait comme prestation pour qu'ils aient un vrai retour sur ce qu'ils ont produit. Les tablettes, moi, personnellement, elles me servent de plus en plus aussi. Cette année, par exemple, dans un projet de quatrième, on a travaillé le néoclassicisme en latin autour des personnages de Cincinnatus et de Brutus. Donc deux tableaux néoclassiques, le premier pour une analyse de tableau, le second pour voir les caractéristiques du style néoclassique, et puis projet du coup à long terme, à la suite maintenant de ma séquence sur la sécession de la plèbe, essayer de mettre en scène, sous forme d'un tableau néoclassique, sous forme d'une prise de vue, la scène qu'il faudrait représenter si on était un peintre néoclassique. Donc les élèves vont faire un projet, une démarche à la fois artistique, une démarche qui montrera qu'ils ont compris les caractéristiques du style néoclassique à travers ce nouveau projet.
Alors, il faut peut-être quand même évoquer également les problèmes pratiques liés à l'usage de ces matériels mobiles. Alors moi, je voudrais évoquer par exemple l'enregistrement de brèves d'actualité que j'ai fait en seconde et celle par exemple de textes présentés au baccalauréat pour les terminales. J'ai tenté l'expérience avec un kit de baladodiffusion et en utilisant les smartphones des élèves. Alors, lorsque les élèves utilisent leur smartphone, avec le BIOD donc, il y a toujours des élèves défavorisés. J'ai dit tout à l'heure que les élèves connaissaient évidemment ce matériel, mais il y a toujours des élèves qui n'ont pas de smartphone. Les internes, par exemple, ont parfois du mal à pouvoir les utiliser à l'internat. Par ailleurs, ils n'utilisent pas tous les mêmes logiciels d'enregistrement, ce qui rend la collecte de travaux parfois difficile, laborieuse. Les fichiers sont trop lourds pour être envoyés par mail, par exemple. Et puis, quant à la baladodiffusion, si elle présente l'avantage de mettre à disposition des élèves le même matériel, bien les enregistrements sont parfois de piètre qualité, parce que la salle est trop bruyante et qu'elle empêche les élèves de s'isoler, ou parce que les élèves sont tout simplement trop nombreux, ou parce que les MP3 sont mal positionnés. Et il m'est même arrivé parfois de ne pas réussir à les collecter parce que l'appareil bug.
Oui, effectivement, les difficultés évoquées par Marie sont nombreuses et souvent très concrètes dans nos établissements. Mais elles peuvent aussi justement nous amener à penser notre travail différemment avec les smartphones et les tablettes. En effet, le problème de la différence des applications, des formats d'enregistrement ou encore des systèmes d'exploitation se pose lorsqu'on veut exporter le fichier vers un autre support matériel. Toutefois, on peut aussi envisager de travailler sur ces appareils nomades pour s'exercer plutôt que pour réaliser. Ainsi, pour reprendre ce que disait Marie, l'enregistrement de son ou de vidéo peut se faire en deux temps. Dans un premier temps, les élèves peuvent utiliser la tablette ou le smartphone pour répéter leur oral, c'est-à-dire s'enregistrer, s'écouter, s'auto-évaluer, recommencer le cas échéant. Il s'agit alors d'envisager ce travail comme plutôt un travail de brouillon numérique. Puis dans un second temps, si l'on veut que ce travail d'enregistrement prenne une forme plus aboutie, rien n'empêche d'aller dans une salle informatique, cette fois, ou mieux encore un laboratoire de langue, où les élèves pourront s'enregistrer avec des casques et des micros plus performants et sur des logiciels de captation et de montage plus puissants. Ainsi, au lieu de faire des appareils nomades des supports qui remplacent le travail sur du matériel informatique plus traditionnel, il peut être intéressant de les envisager plutôt sous l'angle de la complémentarité. Quant au problème de l'inégalité des élèves face au BIOD, il est moins présent dès lors que chaque élève n'a pas pour consigne de produire un fichier numérique abouti et de l'exporter. Si l'on considère que l'appareil nomade sert aux élèves à s'exercer, il est alors plus facile de les inciter à travailler par petits groupes autour d'un appareil, qui est alors partagé, et d'enlever en partie la pression que les élèves qui ne possèdent pas d'appareil de ce genre peuvent avoir. Enfin, utiliser les appareils nomades peut amener les élèves à s'exercer, présente un dernier avantage, celui de travailler des compétences ciblées dans un temps circonscrit. En effet, contrairement à une salle informatique où souvent l'ordinateur sert de support central pour la séance entière, la mobilité des tablettes et des smartphones permet d'en faire des usages plus momentanés. Rien n'empêche alors de faire travailler les élèves pendant 10 minutes seulement sur des compétences orales par exemple.
Effectivement, un dernier avantage des appareils mobiles, comme leur nom l'indique, c'est de travailler les compétences ailleurs et de pouvoir les travailler aussi autrement. Alors ailleurs, on a vu, pas en salle informatique, mais en salle de cours et pendant un temps limité par rapport à l'usage d'une salle informatique. Et puis autrement, j'aurais quelque chose à rajouter ou un exemple à prendre en plus, c'est l'usage d'applications de cartes heuristiques, par exemple sur tablette en cours de LCA. Avec des avantages. Alors, un avantage qui est essentiel, c'est la rapidité de la prise en main par les élèves. Le fait qu'une carte heuristique sur une tablette, bon, les élèves, ils font ça à une vitesse phénoménale. Aussi, la rapidité de la saisie, parce qu'on n'a pas des phrases. Et là où ça pourrait devenir compliqué, effectivement, c'est de taper du texte sur une tablette. Mais par contre, dans la mesure où on cherche des simples mots-clés, ça va très très vite. Aussi le fait que les tablettes permettent justement de se concentrer davantage sur l'organisation des idées, sur la réorganisation des idées, puisque ça permet très facilement de bouger une idée d'une place à une autre de la carte heuristique, de voir les potentialités de telle ou telle suggestion des élèves et de faire un échange après en classe entière à partir des différents travaux des groupes. Donc ça me semble être une application, la carte heuristique sur tablette, qui a beaucoup d'avantages.
Et c'est vrai que si ce travail sur la structure peut avoir un avantage, on peut quand même regretter avec les tablettes. Les élèves n'écrivent pas. Et on sait que le geste de l'écriture peut aider les élèves à ancrer les idées dans une mémoire à plus long terme. Donc, ce qui semble quand même intéressant, c'est pas de passer maintenant uniquement par la tablette, mais bien de varier en fait nos pratiques pédagogiques.
Il est maintenant malheureusement temps de conclure cette table ronde. Jeanne, Hugo, pour avoir pratiqué ou envisagé de pratiquer des activités sur tablette ou smartphone, si vous deviez donner un conseil aux collègues qui souhaitent essayer ou un écueil à éviter, que diriez-vous ?
Alors pour ma part, le conseil que je donnerais, c'est donc de ne pas s'arracher les cheveux sur des questions de compatibilité entre les systèmes d'exploitation et des applications. Les ressources et les conseils sont très vite dépassés car les informations évoluent rapidement. Donc ça, je trouve que c'est un point négatif. Mais malgré les inconvénients évoqués, je perçois la tablette à la fois comme un support qui nous permet à nous, enseignants, d'accroître notre créativité pédagogique. Et en parallèle, je la perçois aussi comme un lieu d'entraînement, de consultation, d'expression pour les élèves. Et cette tablette, en fait, nous n'en avons pas du tout fait le tour. De ces exploitations pédagogiques.
Et pour ta part, Hugo ?
Alors moi, mon conseil, ce serait avant tout d'essayer et de se faire confiance face à la technique. À mon sens, mieux vaut peut-être commencer avec les appareils nomades en s'appuyant sur des usages assez simples, mais pertinents et réguliers dans le cours, plutôt que de vouloir immédiatement lancer un projet trop conséquent ou risquerait d'être rapidement débordé. Enfin, je dirais volontiers qu'il faut faire preuve de patience. On peut avoir tendance à penser face à la technique qu'il faut tout maîtriser et tout de suite. Et c'est souvent d'ailleurs la pensée de nos élèves. Alors que avant de savoir, il nous faut aussi expérimenter, c'est-à-dire essayer, échouer aussi et réussir. C'est ce qu'on essaye tous de faire.
Les souris et les lettres.